Donc bonjour, bonsoir, indépendamment de là où vous êtes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Comme à mon habitude, je vais attendre 2-3 minutes que les gens puissent se connecter et on va traiter ce sujet sur la vérité sur Halloween et la Bible. J'espère que par la grâce de Dieu, vous avez passé une bonne semaine qui va bientôt s'achever par la grâce de Dieu d'ici demain. Moi, ça a été par la grâce de Dieu. Pour ceux et celles qui sont peut-être nouveaux, qui viennent aussi peut-être de nous découvrir cette chaîne, ou peu importe, je vous invite donc à souscrire à la chaîne, à vous abonner, en cliquant sur le petit bouton rouge, en n'oubliant surtout pas d'activer les notifications pour être notifié lorsqu'il y aura ce genre d'études-là, ou des questions-réponses, ou des conférences, ou des formations bibliques. Je vous invite aussi également à partager ce lien, puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'actualité, d'un sujet je pense qui nous concerne tous, celui de Halloween et la Bible. Donc je vais attendre comme à mon habitude quelques minutes le temps que les personnes puissent se connecter et nous allons démarrer par la grâce de Dieu. Je vais encore attendre quelques petites minutes que les gens puissent se connecter. On va commencer d'ici 2 minutes, 2 petites minutes, je pense. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver, dites-moi en commentaire si vous le pouvez, si vous m'entendez correctement, si vous ne voyez pas de bug apparent. Écoutez, on va commencer par la grâce de Dieu. Ici. On va commencer, on va prier ensemble par la grâce de Dieu. Et on va rentrer dans ce sujet qui, je pense, en intéressera plus d'un. Prions. Au temps de Père Céleste, notre Dieu, notre Roi, notre Père, nous te remercions, Père, pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole. Père éternel, tu sais que nous ne sommes que des pécheurs, Père, et que nous avons besoin de ta grâce. Et c'est cette grâce-là, Père, que nous réclamons cet instant. Nous réclamons, Père éternel, le sang de Jésus-Christ. Tu nous dis dans ta parole que si nous ne confessons pas, si nous confessons, pardon, nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous purifier et nous pardonner. Nous réclamons le sang de Jésus-Christ sur chaque personne ici présente, chaque personne qui va entendre, écouter, et ainsi que moi-même, Père. Je te prie, Seigneur Dieu, de sanctifier ma bouche, mon esprit, de prendre possession totalement de moi, Père, afin que tout ce qui soit dit vienne de toi et de toi seul. Aide-moi à être clair, concis, et inspire-moi aussi par la révélation de ton Esprit Saint. Je te prie, Père, pour toutes les personnes qui vont aussi entendre ce message, afin, Seigneur Dieu, que tu presses leur cœur à entendre ta parole, à l'écouter et à demander la puissance de ton Esprit Saint pour la mettre en pratique. Je te prie, Seigneur Dieu, afin que nous soyons des auditeurs attentifs, mais surtout, Père éternel, que nous soyons plus dans la pratique, Père, que dans l'écoute. Je te prie aussi, Père éternel, pour la jeunesse et toutes les personnes qui vont malheureusement participer à cette fête, que tu puisses mettre néanmoins ta main sur eux, Père, et les sortir des pièges de l'ennemi. Que toute gloire te revienne au siècle des siècles, Père, en Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons donc parler de Halloween. Donc de Halloween. Et nous allons découvrir donc le lien que Halloween a avec la Bible. Et la vérité ou les vérités que cache cette fête. Avant tout d'abord, laissez-moi vous expliquer très rapidement, pour ceux et celles peut-être qui ne savent pas, mais j'en doute, mais je le fais quand même, qu'est-ce que Halloween? Halloween, c'est une contraction tout simplement du mot All Hallows Eve, qui signifie tout simplement, Hallow, c'est en anglais, ça veut dire sanctifier ou rendre saint, et Eve veut dire la veille. Donc Halloween veut tout simplement dire, ou Hallow Eve veut tout simplement dire la veille des sanctifiés, on pourrait traduire comme ça littéralement, ou tout simplement la veille de la Toussaint. Et d'ailleurs, c'est un jour qui est observé le 31 octobre, puisque cette célébration, celle d'Halloween, marque la veille de la fête, on pourrait dire la fête chrétienne, oui, occidentale, et je dis bien occidentale, de la Toussaint, et qui se termine donc après donc le 2 novembre, le 1er novembre étant la fête de la Toussaint, et le 2 novembre se termine donc par la journée des morts ou la journée des âmes, indépendamment de là où vous êtes. Alors, je ne vais pas citer Ellen White aujourd'hui. Et les personnes qui me connaissent savent très bien ce que je pense d'Ellen White, c'est très clair. Mais je ne vais pas la citer aujourd'hui, je préfère faire une exégèse biblique. Pourquoi? Parce qu'il est bon, mes frères et sœurs, d'abord d'être instruits et d'être solides dans la Bible. On ne peut pas citer les citations d'Ellen White à tout vent, ou d'autres personnes à tout vent, sans être solides d'abord bibliquement. Pourquoi? Parce qu'après, mes frères et sœurs, ça fausse, et ça peut fausser l'interprétation que l'on a des écrits d'Ellen White. Et il y a des personnes aujourd'hui qui ne croient pas aux écrits d'Ellen White. Et pour pouvoir être biblico-biblique pour ce type de sujet-là, je préfère utiliser la Bible seulement. L'étude va se présenter comme suit. Elle va se séparer en deux parties. J'ai préféré faire ça. En une partie d'abord qui sera historique et en une partie qui sera biblique. Concernant la partie historique, on va avoir plusieurs points concernant l'histoire qu'il y a derrière la fête d'Halloween, ou on pourrait dire même les origines qu'il y a derrière cette fête. Vous savez que la fête d'Halloween a commencé, comme je vous l'ai montré et que vous pouvez le voir sur l'écran, a commencé avec les Celtes il y a plus de 2000 années de cela. D'après l'encyclopédie britannique, j'aime bien cette encyclopédie-là parce que c'est très clair, c'est très concis et c'est aussi très solide historiquement parlant, nous dit ceci. Halloween a ses origines dans le festival de Samhain, parmi les Celtes de l'ancien, de la Grande-Bretagne, ou les anciens Celtes, pardon, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. On va voir ensuite après quels sont les liens entre ces pays-là. Le jour correspondant était le 1er novembre sur les calendriers contemporains. On croyait que la nouvelle année commençait à cette période-là. Cette date était considérée comme le début de la période hivernale. Au cours de la fête de Samhain, on croyait que les âmes des personnes décédées étaient revenues pour rendre visite à leur maison, et que les personnes décédées au cours de l'année se seraient rendues dans l'autre monde. Les gens allumaient des feux de joie au sommet des collines pour allumer leurs feux de foyer pour l'hiver et pour faire fuir les mauvais esprits. Ils portaient, écoutez attentivement, parfois des masques et d'autres déguisements pour ne pas être reconnus par les fantômes supposés être présents. C'est de cette manière que des êtres tels que les sorciers, les gobelins, les fées, les démons ont été associés à ce jour. On pensait également que cette période était propice à la divination dans des domaines tels que le mariage, la santé et la mort. Donc, ici on pourrait résumer tout ce qu'on a vu ensemble, et c'est l'encyclopédie qui le dit, ce n'est pas moi, ce n'est même pas un magazine, c'est une référence historique, mes frères et sœurs. L'origine d'abord de la fête d'Halloween est une origine qui est celte à la base. Et on pourrait résumer ces points, comme je l'ai mis en quatre points en lisant cet article, on pourrait les résumer comme ci. La fête d'Halloween, hop, a son origine chez les Celtes, et j'ai rajouté quelques points que j'ai vus aussi historiquement que j'ai estimé juste de mettre. Le premier point, c'est qu'elle est originée chez les Celtes, on l'a vu ensemble, qui adoraient le dieu soleil Belenius. Parce que les Celtes, mes frères et sœurs, adoraient des dieux païens, comme le dieu soleil. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que la plupart des nations qu'on qualifie de païennes dans le christianisme adoraient souvent, mes frères et sœurs, le soleil. Notamment, par exemple, le mithraïsme qui adorait le dieu Mithra, qui est aussi le dieu soleil. Et j'ai mis qui estimait que la nuit du 31 octobre était la fin de la période du soleil et le début de la période hivernale ou de la période sombre. C'est très simple ici pourquoi ils estimaient en fait que la période hivernale en fait était une période sombre. C'est que l'hiver était tellement rude qu'ils estimaient que quand l'hiver arrivait, vous savez, avant les gens ils n'avaient pas de chauffage comme nous, ils avaient un feu. Donc durant cette période hivernale-là, il y avait beaucoup beaucoup de morts. Donc dans la tête des Celtes, ils se disent que le moment où en fait on passe de la période du soleil à la période hivernale, ça décrit en fait tout simplement une période sombre. Et donc l'hiver dans la tête des Celtes est apparenté ou associé, pardon, à la mort. Le deuxième point, c'est qu'en lisant l'article, on voit qu'il y a une période durant laquelle les Celtes croyaient que les âmes des personnes décédées étaient revenues pour rendre visite à leur foyer. On va retenir tous ces points-là, mes frères et sœurs, et on va essayer de voir certaines choses. Le premier point, c'est que ça a une origine chez les Celtes qui adorent le soleil, dieu païen. Le deuxième point, c'est que les Celtes croient que durant cette période-là, les âmes des personnes qui étaient décédées étaient revenues pour rendre visite à leur foyer. Le troisième point, c'est qu'ils portaient des masques ou des déguisements pour ne pas être reconnus par les fantômes et les démons durant cette période-là. Ils se sont dit, bah les gars, si les démons et les fantômes viennent, écoutez, on va se fondre dans la masse, on va se déguiser comme eux. Et enfin, le quatrième point, c'est que cette période-là est une forte période de divination sur trois aspects principaux. Le mariage, la santé et la mort. Maintenant, on va essayer de comprendre comment ceci s'est infiltré dans le calendrier contemporain. Vous savez que les Celtes ont été conquis au 1er siècle par, devinez qui ? Les Romains. D'après la même encyclopédie britannique, elle nous dit ceci. C'est là où les Romains, mes frères et sœurs, entrent en jeu. Les Romains ont conquis les Celtes au 1er siècle. Et ils ont ajouté leur propre festival de la Feralia, commémorant le décès des morts et de Pomona, la déesse de la moisson. Et on sait très bien que les Romains ne sont que la racine d'une religion appelée le catholicisme. Et dans deux articles que j'ai comparés, une encyclopédie britannique et aussi un magazine, Of Stuff Works, dit ceci. Au 7e siècle, donc 6 siècles après, le pape Boniface établit jour de la Toussaint, qui était à l'origine le 13 mai, au siècle suivant, via donc la tutelle du pape Grégory III en 1834. Donc c'est en 1834, en fait, c'est là où on a vraiment changé la date donc de la Toussaint, du 13 au 1er novembre. Et regardez ce que dit l'encyclopédie britannique. Peut-être était-ce un effort de la part du catholicisme visant à remplacer la fête païenne avec une observance chrétienne. Il a été déplacé au 1er novembre. Ainsi, Halloween, ou Halloween aujourd'hui, est la veille de tous les saints, ou la veille des saints. Pour ceux et celles qui connaissent le catholicisme, vous savez que c'est la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Donc c'est une fête commémorative pour tous les saints qui sont décédés et qui sont morts. Et donc ici, on nous explique tout simplement que les Romains et les catholiques, le catholicisme en réalité a récupéré donc une fête païenne des Celtes pour en faire une observance chrétienne. Si vous étudiez dans toute l'histoire, on n'a pas le temps, mais on verrait que la plupart des fêtes aujourd'hui religieuses, le système catholique, et je dis bien le système, pas les individus, historiquement parlant, ont cette mauvaise habitude de récupérer à chaque fois les fêtes païennes de tribus, de nations, et étrangement, ces nations-là adorent toujours le dieu soleil. À chaque fois, récupèrent ces fêtes et en font des fêtes religieuses. Et c'est exactement ce que l'encyclopédie, ici, mes frères et sœurs, nous dit. Donc en déplaçant la Toussaint du 13 mai au 1er novembre, ils ont rendu le 31 octobre Halloween, c'est-à-dire la veille de tous les saints. On pourrait résumer donc deux points ici. D'après l'encyclopédie, C'est qu'un peu d'histoire, les Romains ont conquis les Celtes au 1er siècle. Et le deuxième point, c'est que le christianisme catholique s'est répandu chez les Celtes, parce qu'ils les ont conquis. Et à un moment donné, comme la religion dominante était le christianisme catholique, ça s'est donc répandu chez les Celtes. Et le pape a changé la date de la Toussaint, du 13 au 1er novembre, ajustant ainsi le calendrier contemporain au calendrier païen. Donc à un moment donné dans l'histoire, il y a eu cette espèce de fusion entre le calendrier païen et le calendrier contemporain. Ainsi, la veille de la Toussaint est devenue donc Halloween, c'est-à-dire la veille de la D'ailleurs, aujourd'hui, cette fête-là est toujours fêtée, en Irlande notamment. Lorsque vous regardez l'Irlande, je vous ai mis un petit peu de photos. Ici, on voit deux, enfin plutôt trois petits-enfants, dont un enfant qui sourit, qui fête Halloween. Il a une espèce de pumpkins dans les mains, donc un potiron. Et je vous ai mis la première photo qui est un peu plus en évidence, et je vous ai mis que c'était un festival en Irlande, fêtant cette fête celte en 2019. Donc c'est quelque chose qui est resté encore dans les mœurs en Irlande. Et d'ailleurs, si vous voulez étudier un peu plus, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle les Wiccans. Je ne l'ai pas mis ici, mais les Wiccans qui sont des personnes qui, aujourd'hui encore, réalisent le même rituel que les Celtes. Et d'ailleurs, si vous lisez certains magazines, apparemment, ils disent que les chrétiens, aujourd'hui, ne le réalisent pas peut-être, mais ils célèbrent la même fête que nous, la même fête pendant leurs vacances. Donc les gars sont au courant en réalité que les chrétiens fêtent exactement la même fête païenne qu'eux. Maintenant, comment, historiquement parlant, ceci a infiltré toutes les cultures, et notamment les États-Unis? On sait très bien, mes frères et sœurs, que qui influence le monde aujourd'hui? C'est les États-Unis. À chaque fois qu'il y a une espèce de mode, que ça soit musicalement parlant, que ça soit même le langage, la danse, le cinéma, à chaque fois ça part toujours des États-Unis. Parce que les États-Unis ont une telle influence que lorsque quelque chose sort aux États-Unis, boum, ça vient en France. Et c'est très simple, mes frères et sœurs, de faire le comparatif entre les autres pays et les États-Unis. Je vous donne un exemple simple. Par exemple, Burger King, marque américaine. Il y a beaucoup de Burger King en France. OK? Beaucoup de Burger King en Europe. Des Burger King même en Afrique. Des Burger King en Asie. Partout dans le monde, mes frères et sœurs, il y a des Burger King. Mais combien de restaurants français? Combien de chaînes de restaurants français il y a aux États-Unis? Peu. Combien de chaînes de restaurants vietnamiennes il y a aux États-Unis? Peu. Ça montre la différence entre l'influence des États-Unis et celle du reste du monde. Et historiquement parlant, comment cela a-t-il été importé aux États-Unis? La même encyclopédie nous dit ceci. Parallèlement à d'autres festivités, la célébration de Halloween était en grande partie interdite parmi les premiers colons américains. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que on sait qu'à un moment donné, il y a eu la période du Moyen Âge, etc., Dark Ages, il y a eu la période de la Réforme. Et si vous étudiez l'histoire aussi, vous verrez que à un moment donné, il y a une séparation même vis-à-vis de Halloween. Les réformateurs ont mis fin à cette fête parmi les protestants. C'est pour ça que l'article nous dit qu'à un moment donné, les premiers colons, Ils avaient interdit cette fête-là. Bref, continuons. Et l'article nous dit bien qu'au, je crois que c'est 19e siècle, des festivals soient organisés pour marquer la moisson et incorporer des éléments de Halloween. Quand un grand nombre d'immigrants, y compris, regardez, les Irlandais. Donc je répète, avec tout ce qu'on a vu, la progression, c'est parti chez les Celtes, que les catholiques et les Romains ont récupéré, qui est resté aussi en Irlande, en Angleterre, en Grande-Bretagne, et que, à cause de l'immigration, a été récupéré par qui? Les États-Unis. Et la fin de l'article nous dit, ils ont emporté leur coutume d'Halloween. Et au XXe siècle, Halloween est devenu, comme on pourrait dire comme par magie, est devenu l'un des principaux jours fériés aux États-Unis. En particulier chez qui? Chez les enfants. Donc lorsqu'on regarde tout ça, je le répète, l'histoire nous montre que ça a démarré, ça a des origines païennes chez les Celtiques qui adoraient le dieu soleil. Les Romains sont toujours là au bon moment. Avec les catholiques, fouf, ils ont récupéré ça, ils l'ont incorporé dans le calendrier contemporain. Ils en ont fait une fête comment? Religieuse. Ensuite, cette coutume-là est restée chez les Irlandais. Et une période de forte immigration où les Irlandais ont commencé à immigrer en masse aux États-Unis. Et parce qu'ils avaient cette tradition-là, qu'ils ont encore d'ailleurs aujourd'hui, on l'a vu au festival en 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fête est devenue l'un des principaux jours fériés aux États-Unis. Et si c'est aux États-Unis, c'est partout dans le monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est effectivement partout dans le monde. Partout dans le monde, mes frères et sœurs. En Amérique du Nord, c'est Halloween. En Amérique du Sud, pardon, c'est une autre fête qu'ils appellent Kawaskanchis. Même différents noms, mais c'est à peu près la même chose. Ils ont d'ailleurs une grosse fête des morts là-bas. L'Europe, Halloween, des bonbons un sort. L'Afrique, la danse des Ouded Egungs, si vous regardez. Et en Asie, ils ont ce qu'ils appellent le bon festival. Donc aujourd'hui, c'est dans le monde entier. Maintenant, une autre question sans doute que vous vous posez sans doute, c'est pourquoi des potirons? Pourquoi un potiron? Et c'est l'histoire encore qui nous raconte ça. C'est l'histoire. Il y a l'histoire d'un homme qu'on appelle John aux lanternes. Et on va voir ensemble son histoire. D'après le Figaro, donc dans la branche culture, en 2016, un homme a écrit cet article-là. Jean Talabot, et il dit Halloween, pourquoi les citrouilles en sont-elles devenues le symbole? Et dans cet article-là, il nous explique ce que beaucoup de gens, beaucoup d'encyclopédies aussi, disent concernant le pourquoi du comment. Et regardez, l'article nous dit ceci, on va essayer de lire certaines branches. On nous parle d'un homme qui s'appelle Jacques Sting. On nous dit dans cet article-là qu'il est avare, méchant et débauché. Et que Jacques Stingy passe son temps à s'enivrer dans les tavernes. Donc c'est pas une référence. Il dit une nuit de pleine lune, veille de la Toussaint. Satan tente d'acheter l'âme de l'ivrogne. Et Jacques, qui est assoiffé ou rusé, accepte le pacte en échange d'un dernier verre. Le diable se transforme alors en une pièce de monnaie pour régler la note. Donc, avant de rentrer d'abord dans quel est le lien avec les potirons, dans cet article-là, on nous dit que Jacques Stingy est un homme, si on pourrait résumer ça, qui a un problème avec l'alcool, mais que à un moment donné, dans sa marche, dans sa vie, il a fait un pacte avec Satan. Et c'est l'histoire qui nous raconte ça. Donc ce Jacques, peu importe qui il est, c'est un homme qui a fait un pacte satanique avec Satan lui-même. Et l'histoire nous dit que Jacques saisit la pièce et la plaça dans sa poche, où logea aussi une croix en argent. Comme le veut la croyance, le symbole chrétien paralyse le diable qui se trouve piégé. Stingy demande alors au captif de lui laisser 10 ans de sursis. Le malin, furieux mais obligé d'accepter, retourne en enfer. Et on nous dit que Jacques se fait surprendre par le diable au pied d'un pommier. J'ai même pas le temps de rentrer dans cette histoire-là, mais c'était incroyable. En guise de dernière volonté, il demande cette fois une pomme. Satan escalade alors là pour saisir le fruit. Pendant que Jacques grave une croix sur le tronc, cette fois-ci, les enfers devront le laisser tranquille jusqu'à sa mort. Et on nous raconte, j'essaie d'un petit peu d'aller vite, que Jacques, à un moment donné, monte au ciel. Mais lorsqu'il essaie de rentrer au ciel, on nous dit que sa vie de débauche l'empêche de rejoindre le paradis. Donc quand le diable rancunier refuse à son âme la porte de l'enfer. Donc ce qui se passe avec Jacques, le fameux Jacques Stingy, c'est que à cause de sa vie de débauche, il ne peut pas aller au paradis. Et à cause du fait qu'il a tout le temps réussi à échapper à Satan à cause de la croix, Satan est rancunier, donc il ne veut pas de lui dans l'enfer. Histoire un peu tirée par les cheveux, mais c'est l'histoire qui raconte ça. Qu'on le croit ou pas. Et donc on nous dit que, puisqu'il ne peut pas aller au paradis, puisqu'il ne peut pas aller en enfer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à errer toute la nuit, jusqu'au jugement dernier. Et on nous dit que Jacques, quatrième article, se voit seulement offrir un morceau de charbon ardent pour éclairer son chemin. Et le malheureux place alors la braise incandescente dans un navet préalablement évidé, de manière à se construire quoi? Un lampion, donc une petite lampe. Et il est surnommé à cet instant Jacques à la lanterne, ou Jacques aux lanternes en anglais. Soit en anglais, voilà, Jacques aux lanternes, et revient chaque année hanter les vivants la veille de la Toussaint. Et donc, l'article nous dit qu'en ce jour d'Halloween, les Irlandais et les Écossais prirent plus l'habitude de creuser des navets en y sculptant des visages afin de rendre hommage aux âmes damnées comme le fut celle de Jacques Stingy. Et l'article aussi nous dit que la citrouille, beaucoup plus répandue et se révélant bien plus simple à travailler, remplaça logiquement le navet. Parce qu'aux États-Unis, il n'y avait pas forcément de navets, il y en avait très peu qui étaient cultivés à cette période-là, et donc c'était logique pour eux de prendre des potirons, d'où le potiron. Mais pour revenir sur l'article, la raison pour laquelle il y avait des potirons, c'était pour rendre hommage à un mort. Et en rendant hommage à ce mort-là, il rendait hommage à qui? Aux autres morts qui étaient damnés comme Jacques aux lanternes. D'ailleurs, pour ceux et celles qui regardent les Marvel, ou vous lisez les Marvel, vous allez voir que Jacques aux lanternes est un personnage aujourd'hui de Marvel. Comme s'ils essayaient de faire revivre un mort. Mais ça, c'est notre étude. Vous voyez? Donc en réalité, l'origine du potiron est avec ce Jacques Stingy. Et à chaque fois que nous prenons un potiron et que nous y faisons un dessin et que nous le plaçons devant chez nous, dans nos boulangeries ou dans nos... Vous savez, on rend hommage à quoi? À des morts. Et c'est l'histoire qui nous dit ça. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit inconscient, ignorant, ou conscient. C'est la réalité, mes frères et sœurs, de l'histoire. Et c'est ça, l'histoire, mes frères et sœurs, que Halloween a derrière cette fête-là. Mais j'ai envie de dire, mes frères et sœurs, ça c'est quelque chose qui est plutôt évident, quelque chose que peut-être certains d'entre vous savaient. Et j'aime toujours commencer dans l'histoire avant d'aller dans la Bible, parce que la Bible peut se défendre elle-même, mais l'histoire aussi étrangement confirme la Bible. Maintenant, voyons voir bibliquement, mais quel est le rapport entre la Bible et Halloween? Quel est le rapport? On va voir d'abord quelques versets avec tout ce qu'on a vu ensemble. Des versets qui sont directs, clairs. Dans tout ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a toujours un dénominateur commun, c'est celui de parler à qui? Aux morts. C'est la communication à chaque fois avec les morts. Et la Bible est très, très, très claire à ce niveau-là, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit dans Deutéronome 18, le verset 9 à 10, à 12 même, texte que vous connaissez tous, quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations. Donc Dieu va qualifier tout ce qui vient après le verset 9 comme abomination. J'ai pas le temps de rentrer dans ça en détail, mais il appelle ça abomination. Bref. Et le verset 10, il va dire, il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. Donc première abomination, c'est celle de sacrifier ses enfants sur le feu ou de sacrifier ses enfants tout court dans toute la Bible. Une autre étude. Ni devin qui se mêle de la divination. Donc une autre abomination, bibliquement, c'est celle de la divination. Ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, le verset 11 à 12 nous dit, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ça c'est toute une étude, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en quoi? Abomination à l'Éternel. La Bible est très claire, mes frères et sœurs. La divination est une abomination devant Dieu. Ceux qui consultent les esprits sont une abomination devant Dieu. Ceux qui consultent et qui interrogent les morts sont en abomination devant Dieu. Et ceux qui font passer leurs enfants par le feu, c'est-à-dire ceux-ci qui sacrifient leurs enfants, sont une abomination devant qui? Devant Dieu. Et on l'a vu ensemble que cette fête Halloween est une fête qui est dédiée aux morts. C'est une fête pour les morts. C'est une fête où les Celtes croyaient qu'il y avait une communion à cet instant-là entre les morts et les vivants. Et la Bible est formelle avec ça. On l'a même dans l'histoire de Saül, dans 1 Samuel 18, le verset 21-51. Toute l'histoire de Saül, où à un moment donné, il a consulté les morts, on va en parler tout à l'heure. Et répété dans 1 Chronique 10, le verset 13 aussi, on va en parler tout à l'heure. Ces choses-là sont en abomination devant Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit quelque chose sur les morts, et je ne vais pas faire une étude sur l'état des morts. Si vous êtes intéressé, j'ai fait deux études, une partie qui est, on va dire, une grosse exégèse dessus, et une partie qui est un petit peu plus apologétique, où je montre les versets qui peuvent poser problème et y répondre par la grâce de Dieu. Bibliquement, je vous invite à regarder cette étude-là, vous allez voir, c'est tout simplement une étude en deux parties sur l'état des morts. Je ne vais pas faire ça maintenant. Mais ça touche un petit peu à ce sujet-là. La Bible nous dit dans Ecclésias 9, le verset 5, juste pour vous donner deux versets. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent quoi? Rien. La Bible nous dit que les morts ne savent rien, alors pourquoi consulter les morts? Pourquoi essayer de tchatcher avec eux s'ils ne savent rien? Et il nous dit, et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Les morts ne savent rien dans la Bible tout simplement parce qu'ils sont mort, il n'y a pas une âme. Il faudrait définir ce que c'est une âme. Dans la Bible, l'âme, c'est le corps plus l'esprit, est égal à l'âme. L'âme n'est pas une tierce partie dans l'homme. C'est la combinaison de deux choses, le corps et l'esprit. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne meurt, la Bible nous dit qu'elle retourne à la terre. Genèse 3, le verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. C'est Jésus-Christ qui parle à Adam. D'où tu as été, pris car tu es poussière et tu retourneras quoi? Au ciel? Tout de suite? Non, dans la poussière. Donc, ici, on voit que la Bible qualifie ceux et celles qui essayent de communiquer avec les morts, qui essayent d'interroger les esprits, qui essayent de pratiquer la divination comme des personnes qui sont en abomination devant Dieu, puisque les morts dans la Bible sont morts. Maintenant, on va répondre à une sous-question ici sur les morts que je tenais à répondre pour que ce soit encore plus clair. Les morts, mes frères et sœurs, parlent-ils bibliquement? La réponse est non. Et souvent, les personnes prennent justement le verset de 1 Samuel 28, on va lire le verset 10 à 13, à 14, et ils prennent ce verset-là pour justifier cette pratique-là même au sein du christianisme. Tout simplement parce que le texte dit dans 1 Samuel 28, le contexte c'est celui de Saül qui vient vers cette femme pour invoquer justement, supposément Samuel, et les gens prennent le verset 14 pour dire que c'est Samuel. La Bible dit, et lui dit, quelle est sa forme? Et elle dit, c'est un vieillard qui monte et il s'est enveloppé d'un manteau. Et Saül connut que c'était Samuel. Et il se baissa le visage contre terre et se prosterna. Les gens voient ce verset-là et disent, waouh, Samuel a réussi à invoquer un mort et il a communiqué avec lui, donc on peut communiquer avec les morts. Sauf que mes frères et sœurs, dans la Bible, il y a un principe qui dit qu'on ne peut pas établir une doctrine avec simplement, mes frères et sœurs, un seul vers. C'est, la Bible nous dit un peu par-ci, un peu par-là, précepte par précepte. Nombre 35, le verset 30, Deutéronome 19, le verset 15, Matthieu 18, etc., etc., nous dit qu'il faut prendre à chaque fois deux ou trois témoins. Rappelez-vous l'histoire de Jésus-Christ à sa résurrection. Je crois que c'est dans Jean 21, je crois, à partir du verset 15. Il pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Jésus-Christ lui pose la question combien de fois? Trois fois, pourquoi? Parce qu'il veut montrer que c'est un fait établi que Pierre l'aime. Et qui peut commencer donc le ministère de paître les brebis. À chaque fois, on a l'Ancien et le Nouveau Testament, deux témoins. Où le Nouveau Testament complète l'Ancien et l'Ancien Testament complète le Nouveau. Donc à chaque fois, c'est un principe dans la Bible. Vous avez deux tables de loi, pas trois. Deux tables, deux témoins aussi. Pourquoi? Témoignage de deux ou trois témoins. Donc on ne peut pas simplement prendre un texte et commencer à vouloir en sortir une doctrine, à vouloir essayer de tirer les idées qu'il y a dans nos têtes. Non, mes frères et sœurs, on doit laisser tout ça de côté et regarder ce que la Bible dit. Et tout le livre de Samuel est répété dans le livre des Chroniques. Et ce que j'aime bien, c'est que la Bible nous donne à chaque fois des détails que peut-être d'autres versets ne donnaient pas. Et regardez ce que nous dit 1 Chronique 10. On va aller dans 1 Chronique 10, je vais vous mettre ce verset. 1 Chronique, le verset 10, le verset 13. La Bible nous dit ceci. Même histoire. Saül mourut. Parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers Dieu. Quelle infidélité? Dont il n'observa point la parole et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui invoquent quoi? Les morts. Donc ici, on voit que Saül a désobéi à Dieu parce qu'il a consulté les morts. Donc on voit que consulter les morts est une mauvaise chose. Donc premier point déjà, c'est pas parce que Saül a fait quelque chose que nous devons le faire. C'est pas parce que la Bible dit quelque chose que c'est vrai. Je vais répéter. C'est pas parce que la Bible dit quelque chose qu'on doit le faire. Par contre, tout ce que Dieu dit, nous devons le faire. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes en train de dire, peut-être Daniel est en train de dire une hérésie totale. Non, c'est pas une hérésie, mes frères et sœurs, il y a une subtilité dans ce que j'ai dit. Par exemple, il y a des gens qui ont violé des personnes. C'est dans la Bible. C'est l'histoire de Tama, je crois. Vous avez le peuple d'Israël qui a tué, qui a fait la guerre. Donc si je suis votre raisonnement, alors tout ce que la Bible dit, nous devons faire alors. Donc nous devons aussi tuer comme les Israéliens ont fait. Nous devons faire la guerre comme les Israéliens ont fait. Mais non, mes frères et sœurs, parce que la Bible nous raconte le cheminement des personnes. Nous devons prendre ce que Dieu dit, ce qui est bon dedans. Donc le peuple d'Israël a fait un veau d'or, nous devons faire un veau d'or? Non. Donc ici, pour revenir à l'histoire de Saül, ce n'est pas parce que Saül a fait que c'est bon. La Bible nous dit qu'il a désobéi. Nous devons faire les choses bonnes par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, ce qui est piégeant, c'est qu'il y a des problèmes de version. Et on nous dit ici qu'il a consulté les morts. Donc il semblerait confirmer ce que 1 Samuel 28, 10 nous dit. Sauf, mes frères et sœurs, que dans Darby, qui est proche du texte original, ça nous dit autre chose. Regardez. Je l'ai mis juste en dessous du verset. La Bible nous dit, Saül, donc, version Darby, mourut pour le crime qu'il avait commis contre l'Éternel. Déjà, ça donne une autre chose. En ce qu'il n'avait point gardé la parole de l'Éternel. Et qu'il avait même consulté l'esprit de quoi? De Python. Pour savoir ce qu'il devait arriver. Donc, j'aime beaucoup la Bible, parce que c'est très clair. Quand la Bible nous dit qu'il a consulté Samuel, ce n'est pas Samuel qui est sorti de la terre. C'est qui? C'était un esprit de Python, c'est-à-dire un démon. Rappelez-vous l'histoire où il y avait cette femme qui était possédée de l'esprit de Python et à un moment donné, le disciple l'a chassée. C'était un démon. Donc lorsque la Bible dit l'esprit de Python, lorsque la Bible dit « Et Saül connut que c'était Samuel », c'est Saül qui connut que c'était Samuel. C'était un homme. Il était séduit. C'était pas du tout Samuel. La Bible est très claire, c'était l'esprit de Python, donc un démon. C'est pour ça que le Nouveau Testament nous encourage dans 1 Corinthiens 10, le verset 20, un verset que je vous ai mis, qui dit ceci. « Non, mais que les choses que les nations sacrifient, elle le sacrifie à des démons et non pas à Dieu. Et c'est la dernière phrase qui va nous intéresser. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi? Communion avec qui? Les démons. Donc, parler aux morts. Communiquer avec les morts. On ne peut pas en réalité. Et si on pense que c'est un mort avec lequel on communique, on se séduit nous-mêmes puisque la Bible nous dit qu'en réalité, ce sont des démons. Donc on parle à qui? Aux démons. Et quel est le lien avec Halloween? C'est très simple. Halloween, c'est tout simplement une fête bibliquement. C'est une fête où les personnes ont une réelle communion avec qui? Avec les démons. Qu'ils le veuillent ou non. Qu'ils soient conscients ou non. Qu'ils le savent ou pas. Mais c'est un fait. Puisque cette fête-là est une commémoration aux morts, est une invitation à la divination, est une invitation à la communion avec les démons. Chose que la Bible interdit formellement. Donc si vous posez la sous-question, est-ce que les chrétiens devraient participer à cette fête-là? Non, la réponse est non, c'est évident mes frères et sœurs. Mais est-ce qu'une personne tout court, lambda, devrait participer? Non. Pourquoi? Parce que c'est une porte à la communion avec les démons. Et vous savez comment a terminé Saül, mes frères et sœurs? Il est mort dans son infidélité. Pourquoi? Parce qu'il avait transgressé ce principe, cette loi, ce commandement que Dieu avait donné. Il se vouait lui-même, mes frères et sœurs, à l'interdit. Et lorsqu'on transgresse la loi de Dieu, ce n'est pas que Dieu veut nous punir, mais la conséquence naturelle, c'est que lorsqu'on se détourne de la vie, automatiquement, on meurt. Je vous prive d'eau pendant 50 000 jours, vous allez mourir au bout d'un moment. C'est exactement ce qui s'est passé avec Saül. Donc je le répète, Halloween est une fête qui encourage la communion avec les démons. Maintenant mes frères et sœurs, on va rentrer un petit peu plus, on va un petit peu plus creuser. Ok? Ce que je vous ai montré, est-ce que vous savez ce que c'est que cette photo? C'est un iceberg. Et dans un iceberg, Il y a deux faces. Il y a une face que j'appelle visible, comme vous le voyez ici. Et souvent, c'est la plus petite face. Et il y a une face qui est sous l'eau, qui, elle, mes frères et sœurs, est invisible à l'œil. Et pourtant, souvent, celle qui est invisible, ça constitue en réalité, c'est le cœur de l'iceberg. Et ce que je vous ai montré là concernant parler à des morts, parler aux démons, etc., etc., mes frères et sœurs, ce n'est que la partie visible de cette fête-là. Vous savez qu'il y a une partie beaucoup plus profonde concernant Halloween. Satan, mes frères et sœurs, est un être, c'est un menteur depuis le commencement. Quand j'ai étudié Halloween, je me suis dit, ce mec-là, c'est vraiment un mytho, comme on dit. En réalité, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il prend, c'est qu'il essaye de moquer au maximum l'évangile et Jésus-Christ. Et à chaque fois que j'étudie une fête, que ce soit dans l'entertainment, dans la musique, que ce soit des fêtes religieuses ou même des sujets, je regarde toujours comment Satan essaye de se moquer du sang de Jésus-Christ et de son sacrifice. Parce que c'est ça qui le dérange. La personne qu'il déteste le plus, c'est Jésus-Christ. Il a fait guerre à qui au ciel? Apocalypse 12, le verset 9. À Michael, Jésus-Christ. Il vient sur terre, qui veut détruire? Jésus-Christ. Et maintenant, il en a après qui? Après son église, parce qu'il sait qu'en touchant son église, il touche qui? Jésus-Christ. Le gars déteste Jésus-Christ. Et à chaque fois, le but de Satan, c'est à chaque fois de s'attaquer au sang de Jésus-Christ. Donc, quel est le rapport entre le sang de Jésus-Christ? C'est la question que je me suis posée. Et Halloween. Pourquoi Satan tient tant à cette fête? On a vu effectivement les gens communiquent avec les morts, donc tombent dans le spiritisme, on va en parler tout à l'heure. Mais il y a autre chose. Comment le spiritisme d'Halloween attaque-t-il en réalité Jésus-Christ? C'est la question que je me suis posée. Parce que mes frères et sœurs, nous désirons. Ce que l'évangile propose, c'est d'être en communion, non pas avec les démons, mais avec Jésus-Christ. La personne qu'on doit rencontrer pour avoir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit le connaître, c'est la vie éternelle. Donc tout le plan de l'ennemi, ça va être en sorte de détruire cette communication, de détruire cette communion, de détruire l'opportunité de connaître Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il a essayé de faire avec Halloween. Pour répondre à cette question-là, je vous ai fait un petit récapitulatif. On pourra aller en profondeur encore un peu plus, mais on va rester sur ça pour que ça soit simple. Qu'est-ce que Halloween dans la pratique? Halloween dans la pratique, c'est ceci. Le 31 décembre, Halloween. Avant la Toussaint. 1er novembre, Toussaint, 2 novembre, fête des morts ou la fête des âmes. Tout le monde se déguise principalement en sorciers, démons, fantômes. Avec le temps, effectivement, ça varie. Maintenant, les gens prennent les super-héros. Mais les super-héros aussi, c'est toute une étude. Parce qu'il y a un lien entre le spiritisme et les super-héros. Mais pas le temps. Ensuite, les enfants, et c'est les enfants principalement qui font du porte-à-porte, afin de récolter quoi? Des bonbons, donc une récompense. En disant quoi? Des bonbons, ou un sort, ou en anglais, trick or treat. Donc des bonbons, ou un sort. Et si le foyer en question, qui est évangélisé, on va dire ça comme ça, par ceux et celles qui sont déguisés, si vous n'avez pas la possibilité de donner des bonbons. Donc, qu'est-ce qui se passe? On vous jette un sort. Et surtout aux États-Unis, ce qu'ils aiment bien faire, c'est jeter du papier toilette dans les maisons, jeter des œufs, etc. C'est leur manière de montrer qu'ils vont jeter un sort. Donc c'est ça la fête d'Halloween, dans la pratique. Et je répète pour que ça rentre bien dans nos têtes, parce qu'on va rentrer maintenant dans la Bible. 31 de Sob, Halloween, ça annonce une période sombre. Toussaint, fête des morts. Tout le monde se déguise principalement en sorciers, démons et fantômes. Ce sont les enfants qui font principalement du porte-à-porte en disant un bonbon ou un sort. Et la quatrième chose, c'est que si vous ne donnez pas ces bonbons-là, ils vous jettent un sort. Maintenant, quel est le rapport avec la Bible, mes frères et sœurs? Est-ce qu'en ne voyant pas ces points-là, ça ne vous rappelle pas une histoire dans la Bible? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, Satan en a vraiment après Jésus-Christ. Même s'il sait qu'il a perdu, il en a vraiment après Jésus-Christ et après ses enfants. Vous savez que ça répond, ça ressemble à une histoire dans la Bible, mais que Satan a pris comme il fait toujours et qu'il a ups and downs, donc il a pris ça, il a retourné ça dans tous les sens. Regardez. Hop. Est-ce que vous voyez la photo, mes frères et sœurs? Ça vous rappelle pas une histoire? J'ai mis le titre. Exode 12. La Pâque, ou en anglais, pass over. Parce que le pass over, la Pâque, c'était là où ils sont sortis de l'Égypte. Donc ils sont passés au-dessus du Jourdain. Exode 12. Rappelez-vous l'histoire d'Exode 12, et j'ai pas mis tout le texte parce qu'effectivement c'est tout le chapitre d'Exode 12 en réalité, mais je vous ai mis les points principaux. Le contexte d'Exode 12, si vous vous rappelez. Avant de sortir d'Égypte, le peuple d'Israël devait tuer un agneau ou un cabri. Et ensuite, il devait prendre de l'hysope, comme sur la photo, le tremper dans le sang de l'animal. Si vous regardez la photo, le jeune homme ici a une espèce de seau avec du sang. Il devait tremper donc l'hysope. Et il devait couvrir le sang sur les poutres ainsi que sur les deux montants qui tiennent la poutre. Et ensuite, Dieu dit au peuple d'Israël qu'il envoie l'ange de la mort pour tuer tous les premiers-nés à cause de la désobéissance de l'Égypte. Mais dans sa miséricorde, Dieu dit que seuls ceux qui ont le sang chez eux seront protégés. Vous ne voyez pas ici un lien avec l'histoire d'Halloween? C'est exactement la même histoire avec quelques différences. Pourquoi? Parce que Satan, à chaque fois, mes frères et sœurs, essaye de copier Jésus. C'est qu'un copieur, ce gars-là. Et il copie en se moquant de Dieu. On sait par exemple qu'il y a la Trinité aussi dans la Bible. Mais il y a aussi une autre trinité satanique dans la Bible, avec le faux prophète, la bête et l'image de la bête. On sait qu'il y a un autre évangile, comme Paul nous dit. Il y a l'évangile de Christ et il y a un autre évangile. Mais c'est appelé un autre évangile. On sait qu'il y a l'église du Dieu vivant et il y a aussi la synagogue de Satan. Donc Satan, à chaque fois, va chercher des choses, les copier, les approprier et se moquer de Dieu. Maintenant, il y a une différence quand même entre les deux fêtes. Satan, en réalité, s'est attaqué à la Pâque. Il s'est attaqué directement au sang de Jésus-Christ. Regardez, il y a quelques différences. J'ai mis Exode 12 à la sauce de l'ennemi. Hop. Regardez. Je vous ai mis la photo. Exode 12, les gens devaient mettre le sang de l'agneau et devaient tuer un agneau, et l'ange de la mort passait, faire du porte-à-porte, retenez bien ça. C'était pour annoncer, non pas un jugement, parce que c'est vrai que c'était le jugement de l'Égypte, mais c'était pas ça l'histoire principale. L'histoire principale, le focus de l'histoire, c'était la délivrance d'Israël. La délivrance de ceux et celles qui ont choisi de suivre Jésus-Christ. Donc Exode 12 raconte une histoire de délivrance, alors que Halloween annonce une période sombre. C'est exactement comme ça que Satan fait. Il prend et il détourne. Halloween, ce sont les enfants qui sont au cœur de l'histoire, comme Exode 12. Exode 12 nous parle des premiers-nés, alors que dans Halloween, ce sont les enfants qui viennent faire du porte-à-porte. Ce sont les enfants. Et regardez là où ça devient le plus fou, c'est que un est sauvé par le sang de l'agneau dans Exode 12, mais l'autre est sauvé par les morts et les démons. Je ne dis pas que les gens sont des démons lorsqu'ils viennent sonner chez vous, mais ce qu'ils incarnent, et ce qui prend aussi possession d'eux, on en parlera peut-être un jour, parce que lorsque vous mettez ces vêtements-là, et que vous participez, que vous le vouliez ou non, vous êtes en proie à ouvrir une grande porte chez vos enfants. Et oui, l'un est sauvé par le sang de l'agneau, alors que dans l'histoire d'Halloween, qu'est-ce qui vous sauve de vous jeter un sort dans votre foyer? C'est qui? C'est l'ennemi lui-même. Donc en participant à Halloween, vous savez ce que vous faites, en réalité. Et vous savez ce qu'on fait? On attaque directement le sang de Jésus-Christ. Parce que dans la fête d'Halloween, ce qui met en avant la protection sur votre maison, ce n'est pas du tout le sang de Jésus-Christ. C'est la protection des anges sataniques sur votre maison. Au lieu du sang de l'agneau. Donc en participant à Halloween, vous savez ce qu'on est en train de faire implicitement? On est en train de détruire la seule vraie protection qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Parce que dans la Bible, le sang aussi a un rôle de protection. Donc on pourrait dire que Halloween, en réalité, c'est la Pâque de Satan. C'est sa Pâque. Donc non seulement on dédie notre maison à l'ennemi, mais on dédie en réalité nos enfants. Rappelez-vous, on a vu un texte tout à l'heure. Étrangement, la divination, parler aux morts, c'est toujours lié aussi au sacrifice des enfants. Et on pense que le sacrifice des enfants, dans notre époque moderne, c'est que les gens, les satanistes, ils prennent des enfants et les sacrifient. On pense souvent ça au sens littéral, mais il y a aussi un sens spirituel. C'est qu'en exposant nos enfants à ce genre de fête, ou à ce genre de musique, ou à X chose qui sera en lien avec l'ennemi, vous savez ce qu'on est en train de faire? On est exactement en train de faire comme les peuples païens. On sacrifie nos enfants sur l'autel de l'ennemi. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la réalité, mes frères et sœurs. Et tant qu'on ne prendra pas ça sérieusement, on va laisser nos enfants faire tout un tas de choses. On va les laisser regarder la télé. Vous savez que l'enfant, effectivement, on le guide. L'amour, ce n'est pas exigé. Mais lorsque l'enfant, au départ, il n'a pas de volonté propre, c'est les parents qui construisent sa volonté. Rappelez-vous, la Bible dit, lorsque vous enseignez l'enfant dès son jeune âge, il ne s'en détournera point. Parce que les enfants, les parents sont en grande partie responsables de la destination, de la destinée spirituelle de leurs enfants. Donc en exposant nos enfants à ça, mes frères et sœurs, nous les sacrifions à Moloch. Et en même temps, nous attaquons directement le sang de Jésus-Christ. Nous rendons nul le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que nous mettons notre protection en qui? En réalité, en l'ennemi. Et c'est ça la réalité, mes frères et sœurs, d'Halloween. C'est ça l'histoire cachée d'Halloween. Ce n'est pas simplement consulter les morts, c'est ça attaque la seule personne, mes frères et sœurs, qui vous aime parfaitement, malgré nos imperfections. Et vous savez, mes frères et sœurs, que lorsqu'on détruit le sang, dans la Bible, on détruit quelque chose. Lorsqu'il n'y a plus de sang, la Bible nous dit dans Lévitique 17, le verset 11, la vie est dans quoi? Le sang. Dès lors, mes frères et sœurs, que nous détruisons le sang, vous savez ce que nous rejetons? Nous rejetons la vie. Et si nous rejetons la vie, vous savez ce qu'on rejette? nous rejetons Christ. Et si nous rejetons Christ, vous voyez ce qui s'affiche? En réalité, qu'est-ce que nous sommes? L'Antichrist. Je vais répéter pour qu'on comprenne bien. C'est très simple et c'est très logique. En participant à cette fête-là, en réalité, nous rejetons le sang de Christ, la seule protection sur nos foyers. En rejetant le sang, nous rejetons la vie. Et en rejetant la vie, nous rejetons qui? Christ, puisque Christ est la vie. Mais en rejetant le Christ, mes frères et sœurs, nous devenons comment? Anti-Christ. Et vous savez, mes frères et sœurs, que lorsqu'on parle d'antéchrist et d'antichrist dans la Bible, vous savez que l'une des particularités de l'antichrist, j'ai fait toute une étude de ci, je vous invite aussi à la regarder pour voir toutes les caractéristiques de l'antichrist, parce que nous pensons que l'antichrist c'est seulement le pape, prophétiquement parlant, mais c'est pas seulement le pape, c'est tous ceux et celles qui ont exactement ces caractéristiques-là aussi. Donc vous pouvez être un antichrist et être dans l'église. Vous pouvez être un antichrist et être dans l'église aussi adventiste. Vous pouvez même être antichrist et être à des postes de responsabilité. Comme vous pouvez aussi être antichrist et être pasteur. Ou même antichrist et laïque aussi en même temps. Donc personne n'est épargné dans cette définition de l'antichrist. À partir du moment où on rejette le sang, on devient antichrist. Et c'est une des caractéristiques. La Bible nous dit dans 1 Jean 1, le verset 7, regardez. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, comme nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Regardez le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toutes nos iniquités. Amen. Autrement dit, lorsque nous confessons, nous réclamons quoi? Le sang de Jésus-Christ. Et Jean est en train de dire qu'il y a des personnes qui ne ressentent même plus le besoin de confesser. Autrement dit, ils ne ressentent même plus le besoin d'accéder au sang de Jésus-Christ. Et il dit le verset 10, que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Autrement dit, ce que Jean ici est en train de dire, que si nous ne ressentons plus le besoin de confesser, en réalité, nous détruisons le sacrifice de Jésus-Christ dans notre vie, parce que c'est en confessant que le sang de Jésus-Christ nous est imputé au départ. Et d'ailleurs, c'est encore par son sang qu'on est emmené à la repentance, qui est différente de la confession. Et c'est encore par le sang que le péché n'est pas seulement pardonné, mais qu'il est aussi expié. Donc tout tourne autour du sang. Vous détruisez le sang, vous détruisez tout. Vous détruisez Christ dans votre vie, autrement dit, vous et moi. Si nous sommes dans cette condition-là, nous devenons des antichrists. Et c'est le but de Satan à travers Halloween. Il prépare petit à petit, à cause de cette fête et d'autres fêtes qu'on verra peut-être un jour, il prépare les antichrists. Rappelez-vous ces gens qui disaient que plusieurs antichrists viendront. Il n'a pas seulement dit un antichrist, mais plusieurs antichrists. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, pourquoi, lorsque l'on parle d'Halloween, ce n'est pas une blague. Lorsqu'on parle d'Halloween, mes frères et sœurs, c'est très simple. Qui voudrait, mes frères et sœurs, encore blesser Christ, plus qu'il n'a été blessé? Pourquoi laissons-nous nos enfants être sacrifiés sur l'autel de Moloch? Et après nous nous plaignons, 10-13 ans après, mais pourquoi mon enfant fait ci, mais pourquoi mon enfant fait ça? Est-ce que cet enfant-là s'est éduqué tout seul, mes frères et sœurs? Non, il a reçu l'éducation de ses parents. Et la question qu'il faut se poser, c'est de quelle éducation nourrissons-nous, parents? Est-ce que c'est celle, mes frères et sœurs, de « il est écrit » ou c'est celle de « le monde dit » ou Trump dit, ou l'Église peut-être même dit. Parce qu'il arrive des fois que l'Église ne dise pas ce qu'il est écrit. Mais nous, nous devons revenir à « il est écrit ». Et nous devons prier, mes frères et sœurs, pour que les personnes qui font ça aient un secouement dans leur tête et se disent mince, que c'est plus que ce que ça en a l'air. Parfois nous disons oh, mais c'est juste pour qu'ils s'amusent, mes frères et sœurs, c'est toujours comme ça. La séduction, c'est jamais direct. C'est toujours un peu indirect. Il y a toujours une partie de fun. Le péché, mes frères et sœurs, c'est toujours amusant. Mais l'après-amusement, mes frères et sœurs, je défie quiconque. Toutes les personnes qui ont lutté avec le péché, qui luttent avec le péché, savent que le péché, c'est bon au début, mais à la fin, c'est amer. Donc, mes frères et sœurs, nous devons revenir. Ah, il est écrit. Je prie Dieu, mes frères et sœurs, pour que ces vérités qu'on a vues ensemble nous éclairent, vous éclairent, éclairent nos foyers aussi, et que vous partagiez, s'il vous plaît, tout ça avec vos amis, votre famille. Je ne vous demande pas de de les saouler avec ça, je ne vous demande pas de provoquer une étude biblique en plein milieu d'un dîner familial, non. Vivez l'évangile, vivons d'abord l'évangile, et quand les gens nous posent des questions, soyons prêts. Et pour ceux et celles peut-être qui veulent peut-être aller plus loin, d'être peut-être athées ou peu importe, vous pouvez nous inviter, vous pouvez, pardon, nous, on peut vous inviter, pardon, à nous envoyer un mail à lechemin@gmail.com. On se fera une joie par la grâce de Dieu de vous éclairer à ce sujet-là. Donc, je répète le chemin. Hop, de. Ouais, que je vais vous mettre ici. @gmail.com. Donc, on va prier pour conclure cette étude. On va prier ensemble, prions. Autant de Père Céleste, notre Dieu, notre Père, le Trois, nous voulons te remercier, Père, pour l'étude de ta parole. Père éternel, veuille. Sanctifiez nos pensées, sanctifiez nos cœurs, Père éternel. Veuille changer ces cœurs, Père éternel, qui sont si défectueux. Te prions, ton Père Céleste, de nous purifier et nous laver dans ce sang magnifique de Jésus-Christ, Père. Ô Père éternel, Jésus-Christ devrait être tout pour nous. Éloigne-nous, Seigneur Dieu, de toute chose qui pourrait encore le blesser. Lui déjà qui a sacrifié tout ce qu'il avait à la croix. Lui, Seigneur Dieu, qui œuvre encore dans le lieu très saint. Et qui encore, Père éternel, fait circuler son sang dans le sanctuaire. Lui, Seigneur Dieu, qui intercède pour nous, des pécheurs, afin que nous soyons sauvés. Ô Dieu, ne permets rien, personne, ni même nous-mêmes, Père, de pouvoir, Seigneur Dieu, nous éclipser du sang de Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes, Père éternel, qui sont dans la séduction. Et tu nous dis d'ailleurs dans ta parole, Père éternel, qu'à la fin des temps, il y aura l'abomination de la désolation. Nous avons vu ensemble que l'une de ces abominations était celle de parler aux morts, de communier avec les démons. Et nous sommes dans ce temps, Père. Nous savons que tu es à la porte et que ces abominations s'y commettent. Tu vois même que le spiritisme, Père éternel, a pénétré même nos églises. Nous banalisons ces fêtes-là. Ô Dieu, je te prie que tu réveilles tes serviteurs dans tes églises. Que tu leur donnes la parole, afin, Seigneur Dieu, qu'ils puissent sonner l'alarme chez ton peuple, afin qu'eux-mêmes puissent sonner l'alarme dans leur propre foyer, et que nos foyers, Seigneur Dieu, puissent être un témoignage dans ce monde qui devient de plus en plus sombre, et que nous puissions être la lumière dans cette génération, Père éternel, car c'est cette génération qui va voir Jésus-Christ face à face. Ô, permets que toutes les personnes qui ont pu écouter, ainsi que moi-même, nous faisions partie, Père éternel, de cette génération, qui ne va pas connaître la mort et qui va te rencontrer. Et que même si nous connaissions la mort, nous faisons partie de ceux et celles, Père éternel, qui seront avec toi d'éternité en éternité. Ô Seigneur Dieu, préserve nos enfants, préserve ma fille, préserve ma femme, préserve moi, préserve mes amis, préserve mes proches, préserve aussi les enfants de nos familles. Ô Seigneur Dieu, préserve-nous dans le sang de Jésus-Christ. Et que notre seule protection soit seulement dans le sang précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Hop. Donc, si vous avez des questions, merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi, Ernest Senou Todegla. J'espère que je l'ai bien dit. Je vous invite vraiment à partager cette étude-là à qui vous le pouvez par la grâce de Dieu. Si vous voulez peut-être la présentation en PPT ou en PDF ou même en Word, je vous invite à nous envoyer un mail. On se fera une joie de vous répondre par la grâce de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse et vous garde et bonne fin de semaine en Jésus-Christ. Aussi, j'aimerais vous dire aussi que j'aimerais remercier toutes les personnes qui continuent à soutenir ce ministère, que ce soit par vos prières, que ce soit par vos dons, que ce soit même par vos sourires. Je tenais à vous remercier par rapport à ça et que par la grâce de Dieu, on essaiera toujours de porter le flambeau de Jésus-Christ partout où nous partirons. J'ai une question. Peut-on avoir la vidéo pour qu'on puisse la partager dans nos groupes WhatsApp? Oui, c'est tout à fait possible. Il vous suffit tout simplement, en bas de la vidéo, vous allez voir qu'il y a un petit truc où c'est marqué partager. Vous cliquez tout simplement dessus et vous avez un lien. Donc c'est le lien de la vidéo YouTube. Vous le copiez et vous le collez dans vos groupes WhatsApp, vos groupes Facebook, bref, partout où vous voulez par la grâce de Dieu. Vous pouvez d'ailleurs revoir aussi cette vidéo-là en continu sur notre chaîne YouTube, donc le chemin de Way sur notre chaîne également. Donc que Dieu vous bénisse et vous garde encore une fois. Et bonne fin de semaine en Jésus-Christ.